Allez-y.
Non, une seconde, une seconde, je compte.
Alors, 3, 4.
On ne parle pas la bouche pleine.
On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Crugère.
Sortez.
Soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, foule sentimentale.
Bonjour, nous sommes à table avec Toby Nathan, que les auditeurs de France Culture connaissent comme professeur de psychologie et comme écrivain, et qui va nous parler d'un sujet qui le passionne, d'un sujet qui lui ressemble d'ailleurs, qui est le foule, la fève, le foule sentimental, parce que vous venez de sortir aux éditions Stock Ce pays qui te ressemble. La graine qui lui ressemble, c'est la fève, c'est le foule.
Le foule, c'est le plat national égyptien, c'est-à-dire que c'est par le foule que le peuple d'Égypte se nourrit depuis toujours, en fait, hein. Donc, c'est évidemment, comme on dit qu'on ressemble à ce qu'on mange, c'est sûr que je suis un foule. Et d'ailleurs, il y a un jeu de mots, d'ailleurs, parce que foule, ça veut dire la fève, hein. Mais foulaine, ça veut dire quelqu'un. Et probablement foule, c'est le mot qui a donné peul, les peuls, quoi, qu'on appelle aussi les foulani, les gens. Et au fait, c'est un végétal, et c'est aussi sous-entendu que ce sont des gens. C'est une fève, et ce sont des gens. Et au fond, certains végétaux sont animés, et ils deviennent une puissance par eux-mêmes, et c'est le cas du foule, oui.
Alors, Toby Nathan, si l'on remonte dans le temps, qu'est-ce qu'on connaît du foule, qu'est-ce qu'on connaît de la fève aux origines?
On connaît pas mal de choses, c'est-à-dire que c'est... Ça fait partie des plus anciens végétaux cultivés, en fait, puisque sa culture est attestée depuis 10 000 ans avant Jésus-Christ, quoi. On a retrouvé des traces de ça. Mais il y a un texte étrange d'Hérodote, qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ, et qui dit « Les Égyptiens détestent la fève ». Alors ça, c'est bizarre, quoi. Les fouilles archéologiques contredisent totalement Hérodote, parce que déjà, du temps d'Hérodote, c'était le plat national égyptien. Pourquoi est-ce que Hérodote dit ça? Parce qu'Hérodote, c'est une sorte d'ethnologue, mais c'est beaucoup... Il a souvent été un ethnologue de salon, c'est-à-dire qui se base sur des écrits, en fait. Et il y a des écrits, en effet, mais c'est des écrits religieux. Et il semble que la fève était interdite aux prêtres, et évidemment permise au peuple.
Mais alors, pourquoi? Parce que c'est une graine magique? Parce que c'est une graine divine?
Parce que c'est une graine vivante. Vivante, et que... Elle est même plus que vivante. Si elle est un fœtus, regardez une fève. Regardez bien une fève. Vous allez voir, ça ressemble à un fœtus, quoi.
Alors j'aimerais que vous nous lisiez...
Ah oui, c'est comme ça que commence mon livre.
Le tout début de votre livre, parce que vous parlez de ça, justement.
C'est le tout début, c'est la première phrase, en fait. Ça commence comme ça. Les Égyptiens sont des cannibales. Regardez bien une fève, observez-la de près, vous verrez combien elle ressemble à un fœtus. Depuis l'Antiquité, les Égyptiens sont des mangeurs de fèves, des mangeurs de fœtus. Ma mère s'appelait Esther. Des fœtus, elle dut en manger des quantités avant de finalement tomber enceinte.
Donc si l'on parle de ce fœtus-là, c'est pas uniquement un fœtus d'ailleurs. Parce qu'il y a d'autres versions.
Oui.
Le fœtus, on élève le débat.
Oui, alors le fœtus... C'est vrai, enfin je veux dire, ça a été décrit, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est dans les textes grecs anciens.
Donc
hein.
Ça aurait été interdit par souci pour éviter le cannibalisme?
Oui, absolument, c'est ce que pense Marcel d'Étienne, par exemple, qui disait que les prêtres égyptiens considéraient que manger la tête de son père ou manger une fève était équivalent, donc on n'a pas le droit de le faire, quoi. Donc ça, c'était un interdit du cannibalisme qui s'attachait rituellement à la fève. En même temps, le peuple, c'était son plat national. Hein. Je veux dire, c'est là la position étrange de la fève. Et puis, elle est rattachée à des tas d'autres pensées.
Et d'autres parties du corps aussi.
Ah oui, alors, c'est Aristote. Aristote dit que c'est un testicule. Vous regardez bien, ça ressemble à un testicule, un peu écrabouillé, mais c'est un testicule. Donc, vous n'allez pas manger des testicules humains, quand même.
Bah, ça dépend, ça.
Oui, bon, enfin, on mange des testicules de taureau, mais des testicules humains, non. Ça, c'est Aristote. Il y en a d'autres qui disaient aussi qu'elle contient les âmes des morts. Et ça, ils ont une preuve, parce que la fève contient des vents. Et ça, les anciens étaient très, très attachés à cette description. C'est-à-dire, vous mangez des fèves, puis vous avez des vents dans le ventre, quoi. Donc, c'est que les vents étaient contenus dans la fève. Et si elle contient des vents, c'est parce qu'elle contient les âmes des morts. Elle a très longtemps été attachée, la fève, aux âmes des morts. Et c'est probablement pour ça qu'elle s'appelle foule, c'est-à-dire les gens qui sont morts, la multitude de gens qui sont morts, c'est des foules, c'est des gens, quoi. C'est quelque chose qui est resté, et c'est dans le background inconscient des gens, comme ça. Et c'est une des raisons, peut-être, pour laquelle la fève a été supprimée de notre cuisine, parce qu'elle était extrêmement populaire jusqu'au 15e, 16e siècle, hein, en Europe, hein. Et elle a été supprimée parce qu'elle a été supplantée par le haricot qui venait d'Amérique du Sud, qui n'était pas entaché de toutes ces charges symboliques, on va dire.
Toby Nathan, vous êtes né au Caire.
Oui.
Vous racontez d'ailleurs un petit peu une histoire, l'histoire de votre personnage qui s'appelle Zohar. Il a peut-être des traits en commun avec Toby Nathan.
C'est que ma maman, quand je suis né, ma maman n'avait pas de lait. Et donc, pour me nourrir, on a cherché une nourrice. Et dans l'hôpital, il y avait une femme syrienne qui avait beaucoup de lait et une petite fille. Et donc, j'ai été nourri au lait de cette femme, en même temps que sa petite fille. Ma mère, tout au long de sa vie, m'a dit « N'épouse jamais une syrienne, ça pourrait être ta sœur de lait. » Parce que ça, c'est totalement interdit, quoi. Donc ça, oui, j'ai ça de commun avec Zohar, qui lui aussi a une sœur de lait, mais qui lui a une relation très... passionné avec sa sœur de lait, quasiment magnétique. Il est attiré par elle, elle est attirée par lui. Ils savent même pas, on peut même pas dire qu'ils s'aiment, c'est leur corps qui sont attirés l'un vers l'autre, comme ça. Et tout au long de leur vie, ils seront comme ça. C'est ce récit-là que je rapporte dans mon roman.
Toby
Malheureusement,
Nathan,
moi, j'ai jamais rencontré ma sœur de lait. Peut-être ça viendra.
Toby Nathan, si l'on évoque ce foule, cette fève magique, il s'intègre à plusieurs repas, à plusieurs moments de la journée en Égypte. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels ?
Bon, alors, je vais vous dire, la fève, c'est un repas très consistant. Et c'est le repas des pauvres. Alors, on peut le manger le matin, et à ce moment-là, c'est ce qu'on conseille de faire, parce que ça tient bien l'estomac. Si vous prenez des fèves le matin, c'est le repas du amir, du prince. Après, si vous prenez ce repas à midi, c'est que vous pouvez pas manger de viande. C'est que vous n'avez pas les moyens de manger de la viande. Donc on dit, c'est le repas du faillir, du pauvre. Et si vous le prenez le soir, alors là, c'est que vous savez pas ce que ça va vous faire au ventre et quel cauchemar ça va vous ramener. Et on dit, c'est le repas du hamir, de l'âne, de celui qui comprend rien. Alors, il vaut mieux manger le matin, les fèves. Et d'ailleurs, c'était... une coutume, hein, chez moi, à la maison, quand j'étais enfant, c'était le samedi matin. Et toute la famille venait, et c'était un événement. C'était presque un rituel, hein, de manger les fèves du samedi matin. Ya hala, ya hala, ya habibi, bil wafa. بربيع امتلى يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا رفيقي يا هني عدني يا صباح انجلى يا هلا يا هلا غنى الحب معي وارتاحوا الاضلاع ضاعوا التنهيدات على الوردات موال يا هلا يا هلا يا قليل
يا هلا بيت ننجلى وامتلى بالحلا وبيقول يا هلا.
Alors c'est Fairuz qui chante Ya Habibi Ta'ala, ça veut dire mon chéri, viens vers moi, quoi. Viens, viens, mon chéri, viens. Habibi, c'est un mot égyptien, quoi. C'est vraiment un mot égyptien. Habibi, on dit ça tout le temps, quoi. On dit, je peux vous dire à vous, hein. Ça, c'est pas forcément sexué, quoi. Je veux dire, c'est Habibi, mon cher, ou mon chéri, même. Mais ça veut dire que tu es proche de mon cœur. Le hab, c'est l'amour, en arabe. Et Habibi, c'est l'aimer, quoi. Toi qui es aimé, viens. Et elle dit, quand on aime quelqu'un, on est en manque permanent. Et donc, si tu viens pas, je suis comme une âme errante, je suis plus rien. Alors, puisque tu es celui que j'aime, eh bien viens, viens, pourquoi t'es pas là, quoi, c'est pas possible. Et elle chante ça, ça vous fait des trucs au bide, non?
Ah oui, c'est Farid El Atrache, c'est le...
Oui, c'est une chanson de Farid El Atrache qu'il avait fait pour sa sœur, Asmahan.
Et qu'ils ont chanté en duo, d'ailleurs.
Et qu'ils ont chanté en duo.
Alors, dans cette Égypte-là, comment préparait-on ce plat de foule, justement?
Je pense qu'on prépare le plat de foule de la même manière aujourd'hui encore, parce que le plat de foule est éternel, quoi. C'est très facile à préparer. Il faut prendre ce qu'on appelle le foule medames. Medames, c'est la façon dont on le cuisait, quoi. C'est très dur, hein, la fève elle-même, elle est très dure. Donc, surtout qu'on prend des fèves séchées. Donc on les prend et on les prépare la veille au soir. On les met dans de l'eau. Et c'est bien de mettre aussi une cuillère de bicarbonate de soude, hein, pour les laisser décanter dans l'eau, pour les ramollir en fait. Et le lendemain matin, on les met à bouillir en fait, c'est tout. C'est des fèves bouillies. Mais ça boue, alors mesdames, ça signifie ça boue sous terre. C'est-à-dire qu'on les met à chauffer dans un four enterré. Bon, aujourd'hui on fait pas ça, mais je me souviens qu'en Égypte, on le faisait cuire toute la journée à feu très doux, quoi. Ça cuisait 8 heures d'affilée, 10 heures d'affilée. Et ça sentait dans toute la maison, quoi. On sait qu'il y aura du foule à table. C'était peut-être pour l'odeur qu'on faisait ça. Et alors, une fois que c'est cuit, ça donne une sorte de soupe, quoi. Une soupe avec plein de grains dedans, et qui sont des fèves. Il y a deux façons. Soit la cuisinière, le cuisinier vous le prépare lui-même, c'est le foule qu'on mange dans la rue. Il est préparé, on vous le met dans des pains, en sandwich. À la maison, c'est celui qui mange, qui prépare à sa convenance. Donc c'est un plat qu'on prépare à sa convenance. Mais de toute façon, il faudra mettre de l'huile et du citron. Ça, c'est obligé, de l'huile d'olive et du citron. Et on va écraser les fèves dans l'huile et dans le citron. Et donc, ça va donner une sorte de pâte, comme ça. On va rajouter du sel, du poivre, du cumin. Et puis, on rajoute d'autres ingrédients selon ses goûts. Alors, on rajoute des tomates, du fromage blanc, des œufs durs. Et tout ça, on mélange.
Selon ses goûts et ses moyens.
Et ses moyens, évidemment. Tout le monde ne pouvait pas mettre du fromage, tout le monde ne pouvait pas mettre des œufs. Mais toujours, on va le manger avec un oignon cru. Avec une fourchette, on mange un peu de foule. Et on croque un coup dans l'oignon cru. Et un coup de foule, et on croque dans l'oignon cru. Et ça, ça donne un goût. Ça, c'est le goût de l'Égypte. Bon, après, ça reste longtemps. On en profite toute la journée.
Alors, si on reste dans le goût de l'Égypte, il faut aussi écouter l'Égypte. On va écouter Radio Le Caire.
Radio Le Caire ? Ah, très bien. Sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine, avec Toby Nathan et Alain Krugère.
كنتي في وانا في قلت لي منين والايام دي كانت غايبه عني فين كنتي في وانا في قلت لي منين والايام دي كانت غايبه عني فين نظرة عين فايت القلب وفي جرحين من حلاوتهم قلت يا ريت كان لي قلبي.
Alors ça c'est عبد الحليم حافظ qui chante كنت فين où étais-tu Mais c'est toujours ça, hein, les chansons égyptiennes, c'est des chansons d'amour. Où étais-tu? Qu'est-ce que tu faisais? Comment est-ce que tu peux exister sans que je sois là, quoi? C'était à peu près ça. Mais il s'adresse à une femme. Contifen, c'est, on parle d'une femme, hein. Et Abdelhalim Hafez, c'est un de mes chanteurs favoris parce que c'est le plus musicien des chanteurs égyptiens.
Alors, le fait de manger, le fait de goûter, ça a un sens très particulier. Mais est-ce qu'on mangeait à table quand vous étiez petit, dans le Caire de votre enfance?
Bon, enfin, on mangeait un peu à table, mais c'était pas... Je veux dire, le rituel de la table était quelque chose qui était... Moi, j'ai découvert ça en France, quoi, le rituel de la table. C'est-à-dire, bien sûr qu'on mange à table, mais je veux dire, c'est pas un rituel et on n'y passe pas des heures. Et surtout, on n'a pas ce rite qui est... un plat, un autre, un troisième, etc. On ramène tout de suite. C'est-à-dire les salades, le plat, les desserts, tout est servi en même temps. Vous fabriquez votre repas en fonction de vos souhaits, de vos désirs. Déjà, on utilisait les fourchettes de mon temps. Mais avant, on mange avec le pain, quoi. C'est le pain, la fourchette. Le pain arabe, vous savez, qui est un pain mou comme ça, et qui est ce avec lequel on prend les bouchées. Mais je trouve que c'est plus civilisé de manger avec les mains, moi. Parce qu'on fait très attention quand on mange avec les mains. On fait attention que ses mains soient propres, on fait attention de ne pas salir. Et on est obligé d'être plus civilisé quand on n'utilise pas de couvert. Parce qu'après, les autres risquent d'être dégoûtés par votre présence. Et je trouvais que c'était bien, ça. Mais on le faisait plus de mon temps. On utilisait les fourchettes et les plats et tout ça. Comme les Occidentaux, qu'on va devenir.
Et Toby Nathan, en dehors de ce foule que vous chérissez, est-ce que...
J'adore ça. Hein.
Ah oui, j'ai bien compris.
C'est une fête. Manger du foule, c'est une fête.
Et par rapport au foule que l'on peut trouver dans les pays de culture ottomane ou au Liban ou en Syrie, quelle est la différence?
Bon, c'est-à-dire que le foule égyptien est plus brut, quoi. Sitôt que vous passez au Liban ou en Turquie, ils mettent des tas de choses en plus. Ils mettent du persil, ils mettent de la menthe. Et ils changent le goût, quoi. La fève a un goût.
Ça a l'air de faire plaisir, ça.
Non, parce que la fève a un goût spécial, un goût fort. Elle est vivante, la fève. Il y a deux nourritures en Égypte qui sont vivantes, comme ça. Il y a le foule et la bamia, c'est-à-dire le gombo. En arabe, on dit la bamia, mais parfois on dit la bamia aussi. Hein. Et vous savez, quand on cuit la bamia, il sort une sorte de substance gélatineuse comme ça, et ça signifie que la bamia c'est nous rattache à des personnes qui transpirent comme le forgeron. C'est la substance du forgeron. Quand vous voulez prendre de la force du fer en vous, vous mangez de la bamia. C'est presque un rite de manger de la bamia, comme le foule. J'aime le goût, mais j'aime aussi la force qui transpire de ce végétal, en fait, qui est presque humain.
Et Toby Nathan, vous aimez aussi la dimension mythologique, j'imagine, qui se rattache.
Bah oui. Bah oui, parce que c'est bizarre, hein, parce que c'est paradoxal. C'est à la fois la nourriture du peuple, la nourriture la plus répandue, et une nourriture presque mystique. Vous savez, on a découvert une maladie. C'est très récent, en fait. Hein. C'est à la fin du XXe siècle qu'on a découvert cette maladie, qu'on appelle le favisme. On ne savait pas pourquoi il y avait des gens qui mouraient après avoir mangé un plat de foule. Et on s'est rendu compte que certaines personnes, ce sont très rares, qui souffrent d'un problème génétique, en fait, ont une sorte d'allergie à la fève. Mais une allergie spécifique. Il suffit d'ailleurs qu'ils respirent du pollen de fève pour tomber malade et en mourir, quoi. Donc c'est une maladie très grave. Donc il y a une puissance dans la fève. Est-ce que... Est-ce que les anciens le savaient déjà? Ce serait bizarre, parce qu'ils n'en parlent jamais, hein, de ça. Mais ils disent que la fève est à la fois une substance active et la nourriture du commun. Ça, d'avoir les deux choses dans la même substance, c'est ça qui lui donne son côté magique, je trouve. Je sais pas, on est imprégné de ça, tout petit. Donc quand je sens l'odeur d'un plat de fève, je suis transformé.
Mais ça, c'est votre... Je sais pas, on n'a pas le droit de le dire, peut-être, mais c'est aussi votre côté sorcier, peut-être, Toby Nathan.
Côté sorcier Ben, peut-être. Vous savez, il y a des substances de sorcières. La fève en est une.
Vous avez fait un livre sur les filtres d'amour aussi.
Ouais. Il y a deux fruits qui sont les fruits des sorciers, en fait. Il y a la pomme et la grenade.
La grenade.
Alors, la grenade surtout. Moi, j'ai surtout connu la grenade.
C'est celle de Corée Perséphone, ça, c'est...
Ouais. Ouais. L'histoire de Perséphone, je pense que tout se cristallise autour de l'histoire de Perséphone. C'est-à-dire, Perséphone est capturée par Hadès parce que son père, Zeus, la donne en mariage à son propre frère, Hadès. Mais ça veut dire qu'elle va mourir. Parce que Hadès, c'est le dieu des enfers. Donc, elle y va, mais de mauvaise grâce, elle veut pas, quoi. Et Hadès, qui comprend la situation, il lui donne un grain de grenade dans la bouche. Et sitôt qu'elle mord le grain de grenade, hop, ça y est, elle est prise, et elle va rester là. Elle est capturée, elle est captive d'amour. Après, on négocie pour qu'elle puisse sortir un peu, en fait, etc. Mais c'est bien autour de ce grain de grenade. Alors, est-ce que le rite précédait le mythe ou l'inverse, je ne sais pas. Peut-être que déjà, dans cette Grèce qui invente le mythe de Hadès, on utilisait le grain de grenade pour capturer des femmes. C'est-à-dire capturer d'amour, hein, je veux dire, pas les capturer physiquement, capturer... Parce que c'est ça, l'art de la capture, c'est-à-dire, elle croit qu'elle vous aime, mais en fait, c'est vous qui avez fait qu'elle vous aime. Ça, c'est la sorcellerie.
Toby Nathan, il y a un plat, je crois, que vous aimez particulièrement, un plat égyptien, qui est aussi le goût de votre enfance.
Vous voulez dire la molokhaya ?
Oui.
Ah, la molokhaya, c'est un plat de fête, quoi. Enfin, là aussi, c'était le plat du peuple. Hein. Je veux dire, toutes ces nourritures, c'est des nourritures populaires. Hein. Mais molokhaya, ça veut dire le repas des rois, molokhaya. Je sais pas très bien. C'est une plante étrange, qui a un goût étrange. Ça ressemble aux épinards, mais ça n'a pas le goût des épinards. Ça ressemble un peu au hashish aussi. Mais évidemment, ça n'a pas d'effet toxique et psychotrope. Mais c'est une plante dont on fait une soupe à l'ail. On met aussi du bouillon de poulet. Alors, certains iconoclastes la mélangent avec du riz. Moi, je suis contre. Il faut garder le goût de la soupe, quoi. Vraiment le goût de la soupe. Et quand vous mangez ça, peut-être qu'il y a une force active à cette plante parce que vous êtes complètement transporté par ce plat, la molokhaya. C'est un plat divin. On ne le faisait pas souvent parce que ça prend un temps de préparation délirant. Les mères de famille, quand elles faisaient la molokhaya, elles en avaient pour la journée, quoi, de travail pour faire la molokhaya. Parce que on achète ça, ce sont des feuilles. Et donc, elles les font sécher, elles les coupent en petits morceaux, elles les bout. Ensuite, elles font toute une préparation à l'ail pour qu'on inclue ensuite les herbes. Elles les font mijoter, ensuite elles rajoutent le bouillon. Enfin, ça prend une journée entière pour faire la molokhaya. Donc elles aimaient pas tellement faire ça, les mamans. Hein. Mais quand elles le faisaient, c'était la fête. Et en général, c'était les jours de fête qu'on faisait ça.
Et on peut rajouter alors, dans les familles les plus privilégiées, de l'agneau, du poulet.
Oui, alors le poulet plutôt. Enfin non, aussi l'agneau, mais on n'aimait pas l'agneau. Alors, je sais pas pourquoi on n'aimait pas l'agneau. Dans ma famille, on n'aimait pas l'agneau. Alors, c'était plutôt du poulet. Oui, on peut, bien sûr. Mais je trouve que le côté pur sang de la molokhaya, moi, me plaît davantage.
Toby Nathan, la molokhaya, si on veut en trouver en Europe, qu'est-ce qu'on demande
Ça s'appelle feuille de corette, mais vous en trouverez pas en Europe. Si, vous allez en trouver surgelée. Mais c'est pas pareil, hein. Elle n'a pas le goût, quoi.
Elle n'a pas le goût de votre enfance.
Non, non. J'en ai remangé quand je suis allé au Moyen-Orient, au Liban, en Israël, tout ça. Je ne suis jamais retourné en Égypte. C'est pour ça que je dis que je l'ai mangé autour. On retrouve le goût. Mais en France, quand on achète surgelé, ça n'a pas le goût.
Oh!
Alors ça, c'est la Semsemeïa de Port Saïd, et c'est comment, c'est l'ensemble, un ensemble particulier qui s'appelle El Tambour. Tambour, ça veut dire le tambour. Hein. Donc, ce sont des groupes, c'est extraordinaire, hein, ce sont des groupes de pêcheurs, en fait, hein, qui, vous savez, il y avait une tradition en Égypte qui a eu une influence considérable sur la mentalité égyptienne. C'est que dans les villages, on se réunissait dans des congrégations soufis, comme ça, et on faisait de la philosophie et de la mystique. Et je pense que la société égyptienne tenait autour de ça. Et la mystique, c'était cette musique-là, quoi. On appelle ça le dekr. Dekr, c'est-à-dire qu'on répète des thèmes lancinants, comme ça, qui sont le rythme des caravanes de chameaux. Tatatan, 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 tatatan. Et là-dessus, on développe des pensées comme ça, et on rentre quasiment en transe avec cette musique. Et ça, c'est la philosophie du pays qui exsude de ces musiques. J'ai peur que ça se transforme en musique commerciale, quoi, aujourd'hui. Mais là, dans cet extrait que vous passez, rien qu'à lire le titre, quoi, Shoftel Amar, Ala Sadr El Gamil. J'ai vu la lune sur la belle poitrine de la femme, quoi. J'ai vu la lune sur la poitrine de la femme. Vous pouvez imaginer un érotisme plus flamboyant que ça. C'est que des hommes, hein, qui chantent ça. Et ils chantent ça, et les autres lui disent « Oh, dis-le encore, dis-le encore !» Et j'ai vu la lune sur la belle poitrine de la femme. Ça,
et Semsemeïa,
Semsemeïa, Semsem, ça veut dire le sésame. Hein.
Voilà.
Ah oui, parce que vous savez bien, Ali Baba, quand il dit...
Sésame, ouvre-toi.
Sésame, ouvre-toi, il dit Semsem. C'est un jeu de mots, d'ailleurs, hein. Je vous dis ça en passant. C'est un jeu de mots parce que à la Mecque, le puits s'appelle Zemzem. Donc il se moque de la Mecque, en fait, Ali Baba. Il se moque de la Mecque. Il dit Semsem, pour ne pas dire Zemzem. Et Semsem, c'est le sésame. Alors Semsemeïa, c'est parce que c'est la lyre ancienne, la lyre de l'Antiquité, qui a survécu dans ces orchestres. Et on égrène les notes de musique comme le sésame qui tombe dans un plat en cuivre. Ça fait gling, 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 comme ça. Et Semsemeïa, celui qui joue bien de cette harpe ancienne, on entend chacune de ces notes comme un grain de sésame qui tombe sur un plat de cuivre.
Merci beaucoup, Toby Nathan, pour ce voyage dans ce pays qui te ressemble, qui est l'Égypte. L'Égypte, oui, de votre enfance.
C'est l'Égypte de mon enfance, c'est vrai.
Fais attention, vous. Hein. 3, 4. Plié, tendu, la jambe et hop.
C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère avec Dominique Compétissa, la prise de son est de Delphine Baudet, le mixage d'Alain Joubert et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours et 1001 nuits. Vous devez la télécharger ou la podcaster et dans quelques instants, le journal sur France Culture. Stop!